Amen. Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons entamer, alors c'est un peu la suite de la thématique. Comme vous le savez, cette année, nous allons nous centrons sur la sanctification, qu'est-ce que ça implique pour nous. Et du coup, nous allons entamer une nouvelle série sur la sanctification en lien avec la communauté chrétienne, c'est-à-dire l'Église. Quel est le lien qu'il y a entre la sanctification et l'Église? Et ce matin, on va parler finalement, qui est concerné par la sanctification, et ça va être le titre de mon message, croyant ou disciple. Et je vous invite du coup à prendre l'évangile de Marc au chapitre 8, versets 34 à 38, mais avant qu'on puisse lire le texte, je voudrais vous poser du coup cette question. Quelle est la différence que vous faites entre un croyant et un disciple, si différence il y a? Parce que ça ne veut pas dire que du coup, il y a une différence, hein. Je pose la question. Oui, Maggie.
En fait, il y a croire en Dieu sans le suivre.
Ouais, tout à fait. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, c'est juste, ouais. D'autres éléments? Oui, David. Ah ouais, attends, je voulais sortir à la fin, ça, mais bon, tu casses mon... Exactement, est-ce que vous avez entendu ce que David a dit? Satan est un croyant. Et c'est peut-être du coup ce qui fait peut-être mieux comprendre la différence entre un croyant et un disciple. D'ailleurs, peut-être que, c'est même pas peut-être, Satan est un croyant, il croit en Dieu. D'ailleurs, la Bible dit très bien, il croit en Dieu et il tremble. Il ne nie pas ce que Dieu est. D'ailleurs, peut-être même qu'il a une meilleure théologie, une meilleure connaissance de Dieu que certains chrétiens que nous sommes. Pour autant, il n'est pas auprès de Dieu, bien au contraire, il est en révolte contre lui. D'autres éléments? Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Maggie, tu viens de préciser, il suit, effectivement, c'est le terme qui est employé, le disciple, il suit le Seigneur, mais le terme grec qui est employé, c'est, alors il est différent du coup en français, c'est suivre, mais suivre et appliquer. C'est quelqu'un, c'est la définition de disciple, le terme grec c'est l'élève. L'élève du coup suit son maître, et il le suit dans tout. Partout, partout, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, il va faire, il va penser pareil. C'est ça le disciple. Et Dieu nous appelle pas à être des croyants, mais à être des disciples. Faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce matin, du coup, nous allons voir que Jésus nous appelle à un engagement profond, un engagement qui mène à une transformation réelle, à un processus de sanctification qui fait partie de cette vie de disciple. Qui est concerné par la vie de sanctification? Ce sont les disciples, puisque les croyants, eux, quelque part, connaissent Dieu, mais c'est tout, et ça ne suffit pas. Marc, chapitre 8, versets 34 à 38, c'est Jésus qui va définir finalement ceux qui font partie de sa communauté. Et c'est intéressant de voir comment il commence. Puis il appela la foule avec ses disciples. Jésus fait une précision. Il appelle la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. Voilà, prions. Merci Père encore, mon Dieu, pour ta parole ce matin que nous allons ouvrir. Dieu vient effectivement nous interpeller, nous parler ce matin, que nous puissions encore mieux te connaître et Jésus encore mieux te consacrer nos vies. Amen. Voilà, je vais partager du coup ma prédication en trois parties. Première partie, renoncer à soi-même. Donc, je vais reprendre finalement le verset, hein. Renonce à lui-même. Deuxième partie, qui se charge de sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'il me suive. Ça va être mes trois parties. Et avant de commencer, du coup, cette prédication, faire quand même et préciser. Alors, vous avez donné quelques éléments de réponse qui sont justes. La différence entre croyant et ici disciple. Dans le terme biblique, il y a une différence. La Bible fait une distinction entre le terme croyant et disciple, mais il n'y a pas un mur entre les deux. Et on va le voir pourquoi. Dans certains textes bibliques, il est question de croyants et des croyants qui aiment Dieu, hein. Et du coup, ce n'est pas faux. Mais on va essayer de comprendre. Du coup, comment la distinction ici se fait? Le terme croyant signifie ceux qui croient. C'est ceux qui croient en Dieu ou ceux qui croient d'ailleurs en n'importe quoi, hein, mais c'est ceux qui croient. C'est quelqu'un qui accepte intellectuellement que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour ses péchés. Tout ça, il l'accepte. Il ne nie rien de tout cela. Le croyant reconnaît la vérité de l'Évangile, mais cela ne signifie pas toujours qu'il s'engage activement à suivre Jésus dans toutes les dimensions de sa vie. Dans la Bible, il y a un exemple. Ce sont les foules. La foule, d'ailleurs, que Jésus va interpeller. Cette foule, elle suit Jésus nuit et jour. Elle le suit. Les raisons sont diverses. Certains, c'est parce qu'ils avaient faim. D'autres, c'est parce qu'ils voulaient voir des malades guéris. Voilà, c'était pas des bonnes raisons, mais c'était des raisons qui faisaient qu'ils suivaient Jésus. Ils croyaient du coup en lui, ils croyaient qu'il était le Fils de Dieu, mais il n'y avait rien. D'ailleurs, à un moment dans les évangiles, Jésus va poser la condition pour le suivre. Dans l'évangile de Jean, et qu'est-ce que va faire cette foule? Beaucoup vont le quitter. Le texte va dire dans Jean qu'ils vont partir. Et qu'est-ce que va faire Jésus? Il va regarder ses disciples, il va leur dire « Et vous, vous voulez pas partir ?» Parce que la vie du chrétien, elle doit être consacrée entièrement. Jésus n'a pas le temps ici pour des gens qui viennent juste pour des raisons qui leur sont propres. Il faut être consacré à 100%. Un engagement profond et un engagement du coup qui ne laisse pas de place au compromis dans nos vies. Du coup, parmi nous, et ça a été le cas déjà dans le Nouveau Testament, mais parmi nous, il y a des disciples et des croyants. Et le piège d'ailleurs, ce serait, parce qu'on fait la distinction nous, entre le croyant et ceux qui ne croient pas en Dieu, mais ça c'est le piège. Ceux qui sont le plus à perdre et ceux qui sont le plus finalement, qui ont plus besoin de Dieu, autant d'ailleurs que ceux qui ne connaissent pas, mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils savent où ils sont. Ceux qui ne le reconnaissent pas dans sa divinité, qui niquent qui Dieu est, quelque part eux, ils savent où est-ce qu'ils sont. Mais les croyants, il y a le piège de croire parce qu'on vient à l'église, parce que je connais Dieu, parce que j'essaie de mener ma vie un peu comme il faut, je suis un disciple. Mais non. Et on va voir du coup qu'est-ce que c'est réellement un disciple. Un disciple, ça se voit. Un disciple, le terme grec ici signifie apprenant, élève. Un disciple va au-delà de la simple croyance. Un disciple est quelqu'un qui suit activement, ici on va parler du disciple chrétien, qui suit activement Jésus et s'engage à apprendre de lui, à vivre selon ses enseignements, à prendre part à la mission de Dieu. Et le disciple ici, chrétien, que Jésus attend, c'est quelqu'un qui donne tout. Tout. Il y a un autre texte dans Matthieu 16. Jésus va commencer comme ça, que celui qui aime sa famille plus que lui ne le mérite pas. C'est terrible, hein? Jésus va pas dire du coup qu'il faut haïr. Non, c'est pas ça la question, mais sinon, quel est le Dieu dans nos vies? Qu'est-ce qui prend plus la place que Dieu? Et le disciple, quelque part, c'est celui qui a tout donné au Seigneur. Jésus lui confie des choses, un travail, une famille, et il essaie de faire au mieux, de gérer cela, mais ce n'est pas ça qui dicte sa vie. Ce qui dicte sa vie, c'est son maître. Il y a le croire, du coup, et alors je sais plus qui a dit, c'est peut-être Fred, je sais plus, mais il y a mettre en pratique la parole. Ne pas juste penser le Seigneur, mais quelque part avoir un engagement profond. Est-ce que ça va? Vous voyez la différence? Du coup, un disciple, c'est un croyant. Bibliquement, il y a pas un mur, comme je disais, et des fois le terme croyant est employé dans la Bible, parce que le disciple, c'est un croyant, il croit en Dieu. Mais un croyant n'est pas forcément un disciple. L'inverse n'est pas vrai. Du coup, ici, on peut être croyants, tous, et ce que Jésus attend, c'est qu'on soit des disciples. Réellement engagés, profondément engagés. Première partie, renoncer à soi-même. Et ici, Jésus va parler, le croyant, et de son confort. Puisque qu'est-ce qui peut prendre la place de Dieu? Beaucoup de choses ici-bas. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Avant de le suivre, qu'il renonce à lui-même. Êtes-vous prêt ce matin à renoncer à vous-même pour suivre Jésus? Et quelque part, la question que je vais vous poser, et que l'on doit se poser, voilà, réfléchissez-y, dans quel domaine j'ai du mal ce matin à renoncer à moi-même? Quelque part, dans ma vie, qu'est-ce qui peut prendre la place de Dieu? Et il y a sans doute quelque chose où il y a besoin d'être vigilant et de veiller. Et du coup, à savoir dire, Seigneur, là-dessus, je sais que j'ai du mal, mais toi, prends la place. La définition du renoncement à soi-même, c'est plus que simplement dire oui à Jésus. Tout le monde peut dire oui à Jésus. Le croyant dit oui à Jésus. C'est un acte volontaire, radical, certes, mais le disciple, lui, plus que le oui doit se vivre. Il se voit. Dans sa vie, il est prêt à tout quitter pour suivre son maître. Il n'a pas peur des autres, de ce que les autres pensent de lui, puisque sa confiance est en Dieu. C'est fort, hein? Le croyant, lui, reconnaît Jésus comme Seigneur, mais son engagement n'est pas forcément radical. Alors par moment, peut-être, il va l'être. Mais finalement, en fonction de la vie, des circonstances, il va garder beaucoup de lui-même, beaucoup d'attaches par rapport aux choses de ce monde. Et une personne peut croire que Jésus est sauveur, mais refuser de renoncer à certaines habitudes dans sa vie. Dans l'Ancien Testament, c'est ce que Dieu va reprocher au peuple d'Israël, qui va regarder des hauts lieux. Il y a des rois d'Israël qui vont être bons, d'autres mauvais, et puis il y a des rois qui ont le cœur partagé. Ils connaissent Dieu, ils veulent faire tout ce que Dieu veut, mais dans certains endroits d'Israël, il y a des temples d'idoles qui restent. Le cœur est partagé. Et Dieu va les punir assez sévèrement, il va avoir des paroles dures contre eux. À nous ici d'être authentiques, de ne pas être que dans la croyance, mais quelque part de vivre les choses pleinement. Dieu nous appelle à un engagement personnel, un renoncement total. Notre identité, quelque part, l'identité du disciple, c'est le Christ. Ce n'est plus nous-mêmes. Nos aspirations, tout ce que l'on désire, c'est ce que Dieu désire. C'est cela le disciple. Alors pour illustrer, on peut imaginer du coup la différence entre ici croyant et disciple. Quelqu'un qui décide de suivre un chemin difficile à travers des montagnes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la randonnée. Bon, moi et mon épouse, on aime bien marcher. Alors depuis qu'il y a les enfants, c'est compliqué, on peut pas. Bon, on a essayé, mais c'est compliqué. Mais bon. Prendre des chemins de randonnée difficiles, c'est challengeant. En tout cas, quand on le fait, à la fin, on est content. Et on peut du coup connaître un chemin difficile à travers les montagnes. Et un croyant pourrait se dire qu'il connaît la destination et croit que c'est le bon chemin. Le Seigneur est le bon chemin, mais qui n'est pas prêt à subir les épreuves qui vont avec. Parce que la vie du disciple, elle est difficile. Il y a beaucoup de choses, du coup, qui peuvent venir se mettre au travers de nos routes. Et Jésus, ici, ne l'a pas caché. Un disciple, du coup, en revanche, lui connaît le chemin, mais il va l'emprunter. À la différence du croyant qui connaît intellectuellement et qui reste dans son intellect, le disciple, lui, se met en action. Peut-être qu'il connaît même moins de choses que le croyant. Mais le peu qu'il connaît, il va le vivre. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Mes frères et sœurs, ce matin, il s'agit de ne pas être dans le compromis, de croire par erreur que ce qu'on vient à l'église le dimanche matin, que nous sommes avec Dieu. Ce n'est pas vrai. Jésus ici, qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas au début de son ministère. Hein. À un moment, il interpelle la foule et les disciples. C'est important parce qu'il précise. Il fait une distinction. Pourtant, dans cette foule, il y a des croyants, il y a plein de gens, ils sont tous croyants d'ailleurs. S'ils le suivent, c'est parce qu'ils reconnaissent en Jésus quelque chose. Mais il fait une distinction. Et que dans nos vies, quelque part, le Seigneur soit pas à son retour en train de faire une distinction entre nous. On peut facilement se perdre, mais c'est à nous de savoir où est-ce qu'on en est. Alors ce matin, le piège, ce serait de penser à quelqu'un. Ça, c'est le piège, l'orgueil. Au lieu de penser à nous-mêmes, où est-ce que j'en suis, de dire « Ah ouais, moi je pense à un tel, lui il est croyant peut-être, dans sa vie il a fait ça. » Non. Occupe-toi de toi-même déjà, et ce sera déjà très très bien pour commencer. Première étape du coup, le renoncement à lui-même. Deuxième étape, porter sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez qu'est-ce que veut dire Jésus quand il dit « porter sa croix » Est-ce que du coup il faut aller acheter une croix, ou prendre cette croix là, et je la porte? H24, quand je vais au magasin, à Leclerc, je porte une croix. Certains le font, hein. Dans l'église catholique, il y en a qui portent des croix. Est-ce que c'est ça que Jésus veut dire? Oui, bien sûr que non. On m'a dit oui, ce serait intéressant, on pourrait discuter. Hein, mais... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Prendre sa croix. Ouais, il y a un lien, effectivement, ouais. Un lien avec la souffrance. Vous êtes bon, hein, ce matin. Oh là là. Ouais, ça va ensemble, hein. Ça va avec la souffrance, effectivement. Quelque part ici, ça rejoint le premier point. Porter sa croix, quelque part le disciple, il renonce à tout. Forcément, il y a des choses où c'est difficile. Forcément, quand on devient disciple du Seigneur, alors voilà, si on est dans une famille chrétienne, des fois c'est un peu plus facile, mais on a des entourages qui ne vont pas comprendre. L'entourage, il comprend quand on va de temps en temps à l'église et quand dans nos vies, on pose pas de problème aux autres. Mais quand dans nos vies, dans notre engagement, on dérange l'autre. Et le disciple, c'est ça. Hein. Dans sa vie, c'est une lumière. Ça pose un problème. Et dans nos entourages qui ne sont pas chrétiens, ça peut poser un problème. Ça, c'est porter sa croix. Parce que ce n'est pas évident. Avoir des relations difficiles avec les membres de sa famille, ou peu importe, dans le travail, dans plein de choses. Être un disciple, ça nous coûte. Jésus ici ne le cache pas. Mais il va avoir de belles phrases. Jésus va dire, voilà, moi j'ai souffert, mais j'ai vaincu le monde. Et Jésus ici, derrière, il y a beaucoup de promesses. Et chaque disciple qui suit le maître n'est pas déçu. Il a son lot de souffrances, son lot d'épreuves, mais le Seigneur est au-dessus de tout cela. Et celui qui lui fait vraiment confiance, le Seigneur répond. Je l'ai expérimenté dans ma vie, vous l'avez sans doute expérimenté dans votre vie. Et pour le vivre cela, il faut une vie à 100% consacrée. S'il n'y a pas de consécration à 100%, on ne vit pas grand-chose. À l'époque de Jésus, le symbole de la croix, c'est le symbole effectivement de la souffrance, de la honte. Et porter sa croix ici, c'est accepter cette honte qui était liée du coup à cette croix. Les sacrifices que cela peut impliquer et tout ce qui va avec. Alors bien sûr, je fais un point quand même, attention. Ça ne veut pas dire que du coup, parce qu'on donne tout cela au Seigneur, que du coup on achète son salut. Le salut est gratuit. Rien de nos actions, bonnes ou mauvaises, ne viendra interférer avec notre salut. Mais ce que Dieu nous demande, ça c'est le fruit. Celui qui connaît vraiment le Seigneur portera du fruit. Et le fruit, c'est cela. Il est prêt à tout renoncer. Donc voilà, c'est important, il ne faut pas fondre plus du coup tout mélanger. Par rapport au salut, ça ne rentre pas en ligne de compte. Le croyant, lui, peut avoir une foi, la différence avec le disciple, il peut avoir une foi qui va aller, hein, qui va accepter des choses, des fois même assez difficiles, mais qui ne va pas accepter certaines souffrances liées à sa foi. Il y a par moments, il va faire des compromis, il va renier peut-être même Dieu dans son cœur, temporairement ou par situation, parce que c'est trop. Et qui ne veut pas perdre, du coup, un certain confort, des certaines relations, et qui veut préserver. Le disciple, lui, est prêt à payer le prix de sa foi. Il est prêt. Ça ne va pas dire qu'il va bien les vivre, mais il est prêt à assumer ce choix qu'il a fait. Pourquoi il est prêt? En parlant comme ça, on pourrait se dire, mais pourquoi c'est qu'on est complètement fou? Pourquoi on le fait? Parce que celui qui est disciple, quelque part, il sait l'amour de Dieu pour lui, ce que Dieu a offert pour lui. Et en retour, du coup, il lui donne tout. Cette œuvre-là, elle n'est pas humaine. Et on l'a pas dit tout à l'heure, hein. J'attendais cette réponse, mais c'est pas grave, on va en parler. Ce qui fait la distinction véritable entre le croyant et le disciple, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs. Il n'y a que lui qui est capable de faire cette œuvre-là. Quelqu'un qui veut juste intellectuellement le faire, ce sera pas possible, ce sera impossible. Il y aura sa limite. Mais celui qui est visité par Dieu, lui pourra. Alors comment le faire? Comment être visité par le Seigneur? C'est avoir un cœur sincère, authentique. Comprendre qui il est, comprendre qui je suis dans ma misère et accepter tout ce qu'il est. Et le Seigneur, avec un cœur comme cela, bien disposé, fait quelque chose. Dernier point, suivre Jésus. Le véritable appel du disciple, Jésus conclut cela, qu'il me suive. Est-ce que ce matin nous suivons vraiment Jésus ou est-ce qu'on nous suivons nos propres désirs? Dans ce monde, et voilà, là je parle à nous chrétiens saumurois français, on vit dans un pays quand même, même si on peut râler sur beaucoup de choses, hein, mais un pays quand même où il y a le confort. Et du coup, beaucoup de risques de s'attacher à beaucoup de choses. Et quelque part, du coup, dans nos vies, est-ce que dans ma tête, je dis je suis Dieu, ou est-ce que je suis mes propres désirs? Et là, je ne parle pas du dimanche matin. Hein. Dimanche matin, c'est facile de venir. Je parle de nos vies en général, dans la globalité. Qui je suis? Bon, je vous ai raconté, allez, je vais pas répéter. Moi, j'ai une vie d'église assez compliquée, hein, assez chaotique, et j'ai beaucoup de fois pleuré au Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, je reconnais pourquoi le Seigneur l'a fait, c'était une bonne expérience. Voilà, l'église où j'ai fait la dernière, Saint-Germain. C'était Saint-Germain-en-Laye. C'était l'église peut-être la plus équilibrée que j'ai vécue. Avant Saumur. Saumur, ici, on est une église assez équilibrée. Mais les églises que j'ai faites avant, ça a été la catastrophe. Plutôt, c'était n'importe quoi. Orléans, c'était encore pire. Et je comprenais pas. Pourquoi, du coup, des chrétiens qui se disent chrétiens vivaient cela? Mais en fait, si. Parce que dans l'église, il y a des croyants et des disciples. Et c'est dans l'épreuve. Quand l'épreuve frappe, on voit la distinction. Et à chaque église que j'ai pu faire, j'ai vu véritablement les disciples, ceux qui se tiennent à la brèche. Peu importe ce qui se passe, ils sont là. Je me rappelle à l'église de plus tôt, j'étais jeune, hein, voilà, il s'était vraiment passé n'importe quoi. Et voilà, on était à peu près 160, l'église s'est vidée. Et du coup, l'église a tourné, on faisait les cultes sur le parking de l'église, voilà, c'était très compliqué. Et on était à peu près une trentaine. Mais les 30 qui étaient là, ah c'était le feu hein, dimanche matin, plus que quand on était 150. Parce que les 30 qui étaient là, c'était des vrais disciples. Quand on vient à l'église le dimanche matin sur un parking faire un culte, on peut vous garantir qu'on ne vient pas du coup juste pour être assis sur une chaise. Et c'était le vrai feu. Hein. Alors pendant, ça a duré 10 ans, moi je suis arrivé au milieu, les gens qui venaient du coup, ils n'avaient pas 40 000 questions à se poser. Hein. C'est est-ce que tu aimes Dieu ou pas? Et on a vécu des choses folles. Pendant 10 ans, on a fait les cultes sur le parking en France, hein, on n'est pas en Afrique où il fait beau tout le temps. Hein. Et tous les dimanches matins, de 10h à midi, c'était sec. Il pleuvait avant, il pleuvait après, mais c'était sec. Là où on était, c'était sec. Des fois, sur la ville de Puteau, il pleuvait, hein, mais là où on était, il n'y avait rien. Je peux vous garantir que l'écoute, c'est un autre niveau. Hein. Là, on parle plus sur du théorique. On vit les choses. Alors du coup, c'est difficile, puisque pour nous, ça a été difficile de voir surtout des croyants qui venaient, qu'on connaissait, on avait des bonnes relations avec eux. Du coup, bah, prendre de la distance, c'est difficile, hein, aussi on peut comprendre. Mais ici, Jésus n'est pas dans la compréhension. Il est « qu'est-ce que tu m'offres ?» Ça va ? C'est, la marche du disciple, ici, va rejoindre ce que Paul va dire dans Galates chapitre 2. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Une belle phrase, hein ? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alors, quelques exemples de disciples. Alors, j'ai commencé par les croyants. Premier croyant, bon, David, il a vendu la mèche. C'est le diable. Le diable est un croyant. Il croit que Dieu existe, il croit beaucoup de choses. Des choses qui sont justes, hein. Il a une bonne théologie chrétienne, une bonne connaissance de Dieu. Mais ce n'a reste qu'un croyant, il ne vit rien. Deuxième point, c'est, je l'ai dit, voilà, c'était dans la foule, il y avait certains hommes, certaines femmes qui, du coup, le suivaient, mais qui n'étaient pas disciples. Et puis, le dernier point, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est les chefs religieux. Dans Jean chapitre 12, il est dit ceci, un verset assez impactant, « Toutefois, parmi les chefs, plusieurs croyaient en lui, croyaient en Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas de peur d'être expulsés de la synagogue. » Car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ici, il y avait des chefs religieux qui croyaient en Dieu, qui voulaient d'ailleurs vivre plus que d'autres chefs religieux. Mais parce qu'ils avaient peur de leurs collègues, peur d'être expulsés de la synagogue, peur de perdre leur statut quelque part. Et Jésus va dire, ils aimaient plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. C'est des croyants. Et là, on parle des chefs religieux, c'est pas ceux qui venaient embêter Jésus, hein, c'est pas de cela. Hein. Eux, c'est ceux... L'exemple, c'est Nicodème. Nicodème, c'est un croyant. Il va demander à Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Jésus va lui dire, il faut que tu naisses de nouveau. Oui, mais... c'est un croyant. Et pour nous, ici, il s'agit de vivre cette vie de disciple. Un disciple. Est-ce que vous avez des exemples de disciples? Dans la Bible? Oui. Ah, Pierre, j'ai cité cet exemple-là. Oui, d'autres? Je développerai Pierre, du coup. Il y a les apôtres, oui. Bon, il y a beaucoup de personnes. Hein. Si vous lisez vos Bibles, vous pourrez voir qu'il y a beaucoup de personnes. On les distingue à des vies consacrées, des personnes qui lâchent tout. Les 12 apôtres, on peut voir, je l'ai dit, c'est ce passage, la pêche miraculeuse, quand Jésus va appeler les 12. Voilà, il y en aura 3 qui vont pêcher, ils vont pêcher beaucoup de poissons. Jésus, ils vont retourner, ils ont pêché toute la nuit. Et leur filet sans plan. Ils vont retourner sur la berge, Jésus va leur dire, suis-moi. Ils vont tout laisser. le poisson, la barque, tout. Ils laissent tout. Parce qu'ils savent qui les appelle. L'exemple de Pierre. J'ai un peu développé Pierre. Pierre et les apôtres, mais Pierre, c'est particulier quand même. Pierre, il a quitté son travail, sa famille, tout ce qu'il possédait. Et c'est un exemple de disciple qui a été transformé de l'intérieur. Parce que Pierre, il n'est pas parfait. Si vous lisez vos Bibles, vous voyez que Pierre, il n'est pas parfait. Et on peut tous se rapprocher de Pierre ou se dire, moi, je ressemble un peu à Pierre. Il a un peu niais, un peu impulsif aussi, un peu hésitant. Mais quelque part, il est authentique. Il va faire beaucoup d'erreurs, hein, beaucoup de boulettes. C'est lui qui va trahir Jésus. Hein, donc, mais il est authentique. Il veut suivre le Seigneur. Et Dieu va l'utiliser d'ailleurs de manière puissante. Tellement puissante qu'il va faire plus que Jésus. Dans le livre des Actes, il va dire un passage assez, assez fort, que les personnes malades savaient qu'elles pouvaient être guéries en se plaçant sur le trottoir dans les rues. Parce que l'ombre de Pierre, l'ombre, hein, suffisait à ce qu'elle soit guérie. C'est fou, hein? Et pourtant, cet homme, Pierre, ce n'est pas un surhomme. Ce n'est pas un surhomme, Pierre, c'est un mec lambda que Dieu a choisi. Et ça peut être moi comme vous. L'impact de Pierre, il va être important parce qu'il va annoncer l'évangile au prix de la persécution et il va même mourir pour cet évangile. Il va mourir crucifié la tête en bas. La tête en bas parce qu'il veut dire « moi je ne suis pas Jésus, donc vous me mettez à l'envers ». Le gars, au lieu de prier que Dieu le délivre, il négocie comment on doit le crucifier quand même. Hein. Ça montre, ben voilà, le niveau d'engagement, il est total. Vous voulez me tuer? Allez, allez, allez-y. Niveau d'engagement total. Et la vie de Pierre va avoir un impact jusqu'à aujourd'hui. Sa vie a un impact. Un exemple de disciple, nous sommes en 1927 aux États-Unis. Et c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Jim Elliot, peut-être que vous le connaissez. Voilà, c'est un homme qui est né dans une famille chrétienne assez riche, et ses parents étaient bien engagés avec Dieu. C'était pas des croyants, c'était des disciples. Et il va aller à l'église régulièrement, et ses parents vont prier pour que tous les enfants, y compris Jim et Elliot, donnent leur vie à Dieu. Et voilà, comme vous savez, les enfants, bah, ils font aussi leur choix, hein. Donc, et Jim et Elliot, il va faire ses choix. Et pourtant, il va se dire qu'il se rendait compte que quelque part, Dieu était là. Il se rend compte de Dieu, hein. Il nie pas Dieu, mais il vit un peu sa vie. Donc, il va aller à l'église, il va chanter des louanges, et il va à l'église assez régulièrement. Hein. Donc, Jim Elliot, c'est pas un fréquent, hein, donc pas du tout. Mais il va se rendre compte que quand il vient à l'église, il y a une différence entre ce que lui vit et les autres. Entre comment lui vit, par exemple, la louange, comment les autres vivent leur foi, et lui-même. Il va dire que sa relation avec Dieu, elle était monotone, elle était plate. Alors que d'apparence, dans l'église, il faisait un peu semblant pour ressembler aux chrétiens, mais il savait qu'avec Dieu, c'était plat. Qu'il vivait pas les mêmes choses que certains chrétiens qu'il voyait. Pourtant, il a accepté le Seigneur, Jim Elliot. Il a dit oui au Seigneur, il s'est même engagé par les eaux du baptême. Oh, ça veut rien dire, hein. Et il s'est dit, j'ai tout fait comme je pensais qu'il fallait faire. Je connaissais le Seigneur, hein. Je savais qu'il m'aimait, je savais tout cela. Mais je savais pas pourquoi je vivais pas les mêmes choses que les autres. Et il pensait quelque part que ce oui qu'il avait dit au Seigneur était suffisant. Il n'y avait pas de dynamique, d'engagement profond. La différence qu'il y a entre un croyant et un disciple, quelque part, on peut la définir par un mot, la passion. Le disciple, il est passionné de Dieu. C'est un passionné de Dieu. Pour Dieu, il est prêt à tout. Jim Elliot, du coup, il n'était pas un passionné de Dieu. Et à un moment, il va se rendre compte qu'il vient à l'église, mais c'était un peu une routine. Sa vie, c'était les études à la fac, dodo, et puis venir à l'église le dimanche matin pour au début faire plaisir à ses parents, pour après faire plaisir à sa femme. Peut-être ce matin, c'est le cas, hein, parmi nous ce matin. Mais sachez que si vous êtes là, et même si c'est pour faire plaisir à quelqu'un, c'est vous êtes à votre place ici. Et que du coup, Dieu veut vous interpeller pour que plus que de venir pour quelqu'un, que ce soit uniquement pour le Seigneur. Et du jour au lendemain, il va pas se passer quelque chose, hein. Jim Elliot, il va pas dire qu'il a vu quelque chose. Non, non, non. Du jour au lendemain, par contre, Jim Elliot va changer radicalement sa manière de vivre. Il va tout lâcher pour partir avec 4 autres missionnaires en Équateur. puisqu'il va y avoir un élan dans son cœur pour l'Équateur, et en particulier par une tribu amérindienne, une tribu, les Oka, qui n'avait jamais entendu parler de l'Évangile. Il va proclamer l'Évangile, et il va mourir, tué par ces Amérindiens de cette tribu. Dans sa famille, personne ne sut pourquoi, tout d'un coup, il y a eu ce changement radical. Sa femme, qu'il a rencontrée, ou qui devait être une croyante, va dire qu'il est devenu fou. Quelque part, il est fou pour Dieu, donc c'est pas mauvais. Mais quel a été ce déclic? Alors, il va dire ceci. J'ai mis cette phrase. Il va écrire du coup ceci, Jim Elliot. Le grand besoin de chaque chrétien n'est pas d'essayer de devenir un meilleur homme, mais de renoncer à tout pour Jésus. Il est sage de donner ce qu'on ne peut garder pour gagner ce qu'on ne peut perdre. Ça, c'est un disciple. Jim Elliot, dans sa vie, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment, il a compris que ce n'est pas par ses propres forces qu'il peut suivre le Seigneur, mais c'est en lui donnant tout. Renoncer à tout. C'est la première étape. En fait, c'est la première étape, si on le fait, le reste, c'est beaucoup plus facile. Se charger de sa croix, le suivre, c'est beaucoup plus facile. La plus dure, c'est la première étape. Renoncer à soi-même. Pour tout donner au Seigneur. Cette action-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de le faire. Jim Elliot, il y allait, il en est même mort. Comme Pierre. Pourquoi j'ai pris l'exemple de Pierre? Parce que Jim Elliot va le citer. Il a un des éléments déclencheurs, ça a été l'apôtre Pierre. C'est-à-dire, pourquoi cet homme, il a vécu cela? Et il va faire pareil, et il va vivre la même chose. Pas par ses propres forces. Il le dit bien, hein, c'est beau. Chaque chrétien, c'est pas par nos propres forces qu'on va essayer de devenir meilleur, non. On n'y arrivera pas. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est de lui offrir toute notre vie. Ces hommes étaient des passionnés de Dieu. Et ces hommes et ces femmes dans la Bible, c'était des passionnés de Dieu. Ce matin, est-ce que nous sommes des passionnés de ce Seigneur? Et le Seigneur veut que nous soyons passionnés par lui. Regarde ton voisin là. Dis-lui, il faut que tu sois passionné de Dieu. Et il ne s'agit pas ici là juste de dire des mots. Il s'agit du coup de se questionner. Ce matin, dans ma vie, qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher? Dans le renoncement à moi-même, qu'est-ce qui me lie encore à ce monde? Pour que je sois un véritable passionné de Dieu. Quelqu'un que Dieu peut utiliser. Parce qu'au-delà même d'être disciple, hein, c'est des hommes que Dieu utilise. Et ça, c'est beau. Alors, on veut tous que Dieu nous utilise puissamment. Ça, on le veut tous. Mais on n'est pas prêt à mettre le prix. Et pourtant, c'est ce que Dieu demande. Et ce prix, il n'est pas grand à payer. Parce que notre maître, lui, Dieu, a donné sa vie pour nous. Donc, c'est la moindre des choses aussi de lui donner quelque part tout ce que l'on est. Alors, pour conclure, la question ici que Jésus nous pose est claire. Sommes-nous prêts à aller plus loin qu'être simplement un croyant pour devenir véritablement ses disciples? Être croyant ici, c'est le point de départ, mais le véritable appel de Jésus est de devenir disciple, de marcher sur ses pas, peu importe le prix. Si vous vous êtes engagé ce matin à suivre Jésus, à prendre votre croix, à renoncer à vous-même, alors vous êtes ses disciples. Et la sanctification est le chemin que Dieu vous appelle à emprunter. Mais si vous n'êtes pas encore là, si vous n'êtes que des simples croyants, parce que dans vos vies, il y a des compromis, il y a des choses, il y a des idoles qui restent. Même si vous venez à l'église, que vous pouvez prier le Seigneur, que vous pouvez vivre des expériences, hein. Mais ça ne suffit pas. Mais ce n'est pas grave. Ce matin, Dieu aussi vous appelle, vous qui êtes croyant, à lui offrir tout. Pas par vos propres forces, ce ne sera pas possible. Mais avoir un cœur bien disposé. À dire, Seigneur, ce matin, regarde tel comment je suis et aide-moi. Je veux tout te donner. Du coup, dans ma vie, je ferai tout pour tout te donner. Et toi, viens opérer en moi. Voilà, ce matin, prenons un moment pour évaluer où nous en sommes. s'agit pas de repartir d'ici et de dire ah c'était sympa la prédication ce matin, ça vous sauvera pas. Donc mais d'être de véritablement de passer de croyant à disciple, prêt à suivre Jésus en toutes circonstances. Et que chacun de nous du coup puisse répondre avec sincérité et accepter cet appel, en sachant que même si le chemin est exigeant, même si le chemin peut être difficile, il est et Jésus est la source véritable de vie. Tous ces disciples que l'on voit, ils vont pas râler sur la souffrance qu'ils vivent. Pourtant, ça va être des choses compliquées, des choses difficiles. Mais leur passion est tellement forte que c'est l'apôtre Paul qui va dire que les souffrances ici-bas ne sont rien par rapport à la gloire qui les attend. Jim Elliot, j'aime bien cette fin de phrase. Il s'agit de donner ce qu'on ne peut garder. Ça, c'est nos vies. Pour accéder quelque part ici à la vie éternelle. Quelque chose qui dure. Voilà, je vais relire Marc chapitre 8, le passage, et puis on va prendre un temps de réflexion où chacun, on peut se remettre devant le Seigneur. Et puis certains veulent élever la voix, faisons-le. Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera.